Nous accueillons donc aujourd'hui pour la première séance de ce séminaire. Asseyez-vous un peu rapidement si vous voulez bien. Nous accueillons Pierre Nora. Je ne vais pas perdre de temps à le présenter parce qu'il est déjà venu ici il n'y a pas très longtemps. Il est venu il y a 2 ans, lorsque le séminaire portait sur l'année 1966 pour parler du lancement de la collection des bibliothèques des sciences humaines. Cette année-là, c'était l'un des événements importants de la vie culturelle de cette année-là. Je voudrais juste vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de le faire venir, revenir cette année pour parler de Proust. Il y a 2 raisons. La première, je la raconterai comme ceci. Au milieu des années 1980, j'ai eu la chance de faire l'édition pour Folio du côté de chez Swann. J'avais fini Sodome et Gomorre pour la Pléiade. Il y avait des difficultés pour l'édition du côté de chez Swann dans la Pléiade, l'édition n'était pas du tout prête. Et les éditions Gallimard voulaient qu'il y ait un folio prêt pour sortir en même temps que la Pléiade. Et j'ai eu la chance qu'on me demande de le faire. Et la personne qui m'a demandé de le faire, c'était André Fermigier, qui dirigeait Folio Classique à l'époque. Et c'était la rencontre d'André Fermigier a été pour moi une rencontre importante, l'une des rencontres importantes dans ma vie. Un jour que je dînais avec lui, bon, je ne l'ai connu pas très longtemps, puisqu'il est mort en 1988, j'ai connu 3 ans, à peu près. Un jour que je dînais avec lui dans un restaurant de la rue qui va du marché Saint-Germain à la rue des Canettes, et dont j'oublie le nom, j'ai découvert que je lui devais toutes les lectures de mon adolescence. Et ça a été une grande surprise. Parce qu'à l'époque, dans les années 60, autour de 1965, il s'occupait du livre de poche classique. Et que dans le livre de poche classique, il avait publié tous les livres qu'adolescent je lisais. Par exemple, « Culte du moi », sous une magnifique couverture de Pierre Faucheux, et « Les Proust ». C'est lui qui a publié « Les Proust » dans la collection du livre de poche sous ses belles couvertures de manuscrits et de photographie au milieu des années 60. Et c'était curieux de découvrir qu'il y avait une sorte de deus ex machina qui dictait les livres que je lisais. J'ai donc fait du côté de chez Swann pour lui. Et puis il a été malade et il est mort assez rapidement. Et 2 ou 3 ans plus tard, Pierre Nora m'a invité à avoir plusieurs conversations avec lui lorsqu'il préparait les lieux de mémoire et qu'il comptait écrire un article sur Proust dans les lieux de mémoire. Et nous avons eu plusieurs conversations sur cet article jusqu'au moment où un jour Pierre m'a appelé en me disant « Je n'ai pas le temps de faire cet article, pouvez-vous le faire ?» Ce qui était un très beau cadeau. Mais au cours de ces conversations, j'ai appris qu'il avait lu à la recherche du temps perdu, à la fin des années 1940, avec André Fermigier, qu'il avait initié à la lecture de Proust. Donc il y a cette première raison, j'avais envie de le faire venir pour nous parler d'une lecture de Proust sous la direction d'André Fermigier. Alors, certains d'entre vous connaissent André Fermigier comme l'historien de l'art, comme le chroniqueur du Nouvel Observateur, chroniqueur d'art et chroniqueur d'architecture, comme dans les dernières années de sa vie, le militant contre la pyramide du Louvre. Mais il y a toute cette action d'éditeur. Peut-être faut-il rappeler que lorsqu'il était éditeur au livre de poche classique dans les années 60, c'était avec Bernard de Fallois. C'était sous la direction de Bernard de Fallois et de Guy Scheller, de grands éditeurs à qui nous devons beaucoup. Donc j'avais envie que Pierre Nora nous parle d'André Fermigier, une sorte de qui était un personnage proustien. Lorsque je faisais l'édition de Du côté de chez Swann, pour lui, j'avais l'impression d'être un imposteur, un usurpateur, puisqu'il il vivait ce texte de beaucoup plus près que moi. Et alors l'autre raison, c'est évidemment la proximité de l'entreprise, des lieux de mémoire et de la recherche du temps perdu et de la mémoire proustienne, sujet auquel j'avais un petit peu essayé de toucher dans cet article sur Proust dans les lieux de mémoire, mais sujet qui était évidemment au cœur de toute l'entreprise à laquelle Pierre Nora s'était consacré. Donc voilà au moins les deux premiers points que j'aimerais bien que vous évoquiez devant nous. Pierre, à vous.
Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Et je trouve que c'est une idée audacieuse et peut-être imprudente que Antoine Compagnon a eue de demander à des personnalités aussi différentes que Pierre Boulez ou Alain Cohn de venir parler de leur approche et de leur rapport à Proust. Il vous a dit tout de suite pourquoi il avait été amené à me le demander. C'est donc en fait de ces deux sujets que je vais vous parler, avant peut-être pour terminer, puisque c'est le centenaire, de s'interroger sur le destin, sur l'avenir de l'œuvre proustienne au lendemain de ce centenaire. Alors effectivement, j'ai un souvenir extrêmement précis de la date et des conditions dans lesquelles j'ai lu Proust. C'était après le bac, en 1947, dans l'été d'une maison familiale près de Paris, qui existe toujours, et où, dans une petite alcôve devant les prés, je m'étais promis de lire Proust. Et pendant 15 jours, j'ai lu un volume par jour de cette ancienne et première édition de Proust dans la, chez Gallimard, bien avant que n'existe le Proust de la Pléiade. Il n'y avait que cette édition en 12 ou 15 volumes. 15 jours d'enfoncement et de découverte dont je suis sorti transformé, épuisé. Et pour tout vous dire, je n'ai jamais relu Proust. Je l'ai consulté, j'ai essayé de retrouver les passages, et peut-être d'ailleurs par une espèce de crainte sacrée devant cette attirance vertigineuse de Proust et une forme de refus de se laisser aller à cet envoûtement proustien. C'est à ce moment-là qu'effectivement, j'ai reçu de André Fermigier, dont je venais de faire la connaissance, d'ailleurs dans des conditions très universitaires, puisque dans ma classe de première, un jeune normalien qui s'appelait Jacques Guicharneau, qui a depuis fait sa carrière à Yale, et était venu faire son stage d'agrégation, m'avait repéré, si j'ose dire, sur une copie sur Bérénice, et m'avait emmené au bal de l'École normale supérieure, où j'avais rencontré Proust. Proust. Oui, j'ai tout dit. André Fermigier, qui a eu certainement pour moi, disons, une de ces amitiés effervescentes et passionnées, respectueuses. Il était homosexuel. Et donc j'avais une quinzaine d'années et lui en avait donc à peu près 22 ou 23. Et si j'ai retrouvé, j'ai une énorme correspondance de Fermigier, et évidemment je me suis replongé dans cette correspondance à la demande, à la sollicitation d'Antoine Compagnon. Et j'ai retrouvé une lettre que je trouve extraordinaire, dont je ne vous lirai pas peut-être tout, encore que Antoine, à qui je lisais la première phrase, me disait, c'est déjà très proustien, et qui date très exactement du jeudi 28 août 1947. Donc, elle est datée. « Mon petit Pierre, j'ai reçu hier matin ta lettre si longuement attendue et je l'ai trouvée si belle que d'abord je ne voulais pas lui répondre. » Bon, c'était la première phrase très proustienne. Mais j'en viens au passage sur Proust, puisque j'avais dû lui dire que j'étais en train de lire Proust. « Je crois que tu seras déçu par les premiers volumes de Proust. Il y a dans tout cela, même dans Un amour de Swann, une philosophie mondaine, une sensiblerie malodorante, un bavardage poussiéreux que je n'aime guère, quoique déjà Combray et surtout Françoise nous retiennent. Mais il faut arriver jusqu'à Sodome pour pénétrer dans ce monde éblouissant et cruel et apercevoir sur cette face d'enfant sage et rusé les noirs serpents écumeux de la folie. Là commence vraiment l'envoûtement. Je ne connais pas d'œuvre qui se referme davantage sur vous, qui vous fasse moins douter de ses personnages et de ses mythes, obscurcissant davantage toute autre vie. Et là encore, ce n'est pas le grand romancier que j'aime en Proust, mais sa bêtise, sa vulgarité d'homme du monde, ses cachotteries, ses mensonges, sa culture odieuse à force de virtuosité et de cabotinage, ses prodigieux talents de causeur, sa vision burlesque et hallucinée du détail le plus humble, et par-dessus tout, sa gaieté nerveuse et méchante, la monstrueuse frivolité qui est son enfer. J'essaierai de t'envoyer Sodome et Gomorre avant ton retour. Vous voyez que c'est assez passionnant. C'est une lettre, évidemment, qui est la fin. C'est le Proust entraîné dans la folie. C'est une très belle lettre. Ce n'est pas la peine besoin de la commenter. Et il y avait, si j'ai fourché sur le nom de Proust et de Fermier, c'est qu'il y avait, évidemment, et Antoine Compagnon l'a dit, une sorte de Proust inaccompli dans ce personnage dont nous n'avons eu que la menue monnaie d'un talent qui était très original, qui mélangeait une saveur de la France à la Valéry Larbaud, le cœur frais de la France, au Stendhal des mémoires d'un touriste voyageur et découvreur du patrimoine national, un grand historien d'art qui a été maintenu, il faut dire, par Chastel, votre ancien confrère du Collège de France, peut-être par une sorte de demi-jalousie en dehors des circuits universitaires, et qui, de son côté, avait fondé cette collection dont vous parliez, qui était la première en France d'histoire de l'art illustrée dans le livre de poche, avant de faire le folio classique chez Gallimard, où je l'avais fait entrer, et qui avait écrit un Picasso, un Bonnard, un Toulouse-Lautrec, un Courbet, un Millet, et c'est peut-être au fond la menue monnaie de tous ces articles qu'il m'a demandé, juste sur son lit de mort, de réunir, et que j'ai réuni comme éditeur en trois volumes. L'un qui était Les Chroniques du Beurre, c'est le titre que je leur ai donné chez Gallimard, et qui réunissait ces chroniques essentiellement faites dans l'Observateur, que certains d'entre vous peut-être ont lu à l'époque, pour les plus âgés d'ici, et qui sont éblouissantes absolument de drôlerie, de méchanceté. Je me souviens d'une qui s'appelle La vie de château et qui explique comment il faut se faire inviter chez des gens riches pour passer l'été, mais chasser les enfants, les grands-mères, pour n'avoir que la bonne nourriture et le bon temps. Ou un autre, après 1969, et les élections qui avaient été très à droite, et où il expliquait comment il fallait voyager en France en évitant les départements qui avaient voté à droite, avec une aisance qui leur permettait de découvrir tout un patrimoine national merveilleux, en même temps que de trouver d'excellents restaurants. Eh bien, cette espèce de personnage a certainement eu à beaucoup d'égards, quelque chose de proustien. Mais je dirais qu'il s'est d'une certaine façon dédoublé en Proust, parce que nous étions à l'époque liés avec une autre personne qui est devenue beaucoup plus connue après, c'est Jean-François Revel. Et si j'évoque Jean-François Revel, c'est d'abord parce qu'il ne faut pas que vous pensiez au personnage que beaucoup ont pu lire, connaître, remarquable éditorialiste de l'Express et du Point, pamphlétaire politique qui a tourné à droite à beaucoup d'égards, le Jean-François, qui s'appelait Ricard d'ailleurs à l'époque, puisque Revel est son nom de plume, que j'ai connu et que nous avons beaucoup aimé, était très différent, une sorte d'anarchiste de gauche à l'époque non maigre et chevelu, d'une tonicité vitale, d'une curiosité générale, d'une boulimie de curiosité intellectuelle tonitruante, et qui avait été le camarade de Fermigier à Florence, où Florence avait accueilli André comme attaché culturel quelques années après, et à 25-28 ans, et Jean-François comme professeur. Ils étaient devenus très liés, très amis. Je me souviens d'ailleurs du premier jour où André Fermigier, très charlusien, m'avait dit « J'ai connu à Florence un garçon pas bête, un peu lourd normalien, mais qui sait des choses, et surtout, il m'écoute !» dans un ton tout à fait charlusien. Et effectivement, Jean-François a beaucoup écouté André sur deux points, sur l'Italie, où ils ont vécu, et il a écrit ce petit livre pour l'Italie, et sur Proust, et il a écrit ce livre dont je voudrais vous parler, qui s'appelle « Sur Proust », et qui est dédié d'ailleurs à André Fermigier. Et c'est un livre qui, en 1960, a beaucoup compté, et dans la proustologie, et dans mon rapport à Proust, bien entendu, puisqu'au fond, tout cela sort d'une sorte de milieu proustien dans lequel nous baignons, si j'ose dire, tous les trois, et qui faisait entendre à l'époque un Proust très différent de celui que les proustolâtres aimaient, et d'ailleurs les proustolâtres n'ont pas aimé ce livre du tout, car il prenait le contre-pied du Proust psychologue, moraliste, intérieur, pour faire apparaître un Proust lié au monde réel, un Proust comique, un Proust social, un Proust politique, un Proust dont le principal mérite était une sorte de capacité enregistreuse et sismographique de tout ce qui se passait autour de lui, sur tous les plans. Et il suffit de lire, je vais me permettre de le faire, simplement le premier paragraphe et le dernier, pour que vous compreniez à la fois la tonicité, le punch intellectuel étonnant que Revel a eu. Et d'ailleurs, il suffit de rappeler la giclée de livres étonnants qu'en 5 ans, le jeune Ricard, appelé Revel, a sorti de 1957 à 1962 pour comprendre cette vitalité créatrice éruptive. Il y a eu l'histoire de Flore, qui, chose étonnante chez cet adepte d'un rationalisme à tout craint, était le récit de son embardé chez Gurdjieff, qui était un gourou asiatico-zen, qui avait gourouisé une jeune femme très intéressante qui s'appelait Yann Le Toumelin, qui était la sœur d'ailleurs du premier grand navigateur solitaire du Croisic jusqu'à l'Atlantique, à une époque où il n'y avait pas de radar ni de moyens et qui signalait une sorte de folie que la sœur partageait pour aller chez Gurdjieff, et dont Jean-François était tombé amoureux. Histoire de Flore est donc le récit de cette embartée gourgéfienne. Puis il y a eu Pourquoi les philosophes, qui était un pamphlet anti-structuraliste, anti-existentialiste, contre toute la philosophie ambiante qui était en train de naître à l'époque. Un troisième qui était pour l'Italie, précisément, et un autre, puisque le général de Gaulle venait de prendre le pouvoir en 1958, qui était anti-de Gaulle. Et pour dire la première phrase qui vous manifestait, moi je trouve, j'aurais voulu l'aimer, la trouver cette phrase, le général de Gaulle a raison de se prendre pour la France, il a tort de croire que ça l'honore. Je trouvais que c'était une excellente phrase d'attaque. Et enfin, ce Proust, très influencé par Fermigier, et qui commence par ce premier chapitre, Proust et la vie. À la recherche du temps perdu est un des livres les plus homogènes qui soit, œuvre d'un écrivain qui domine de toute sa maturité ce qu'il dit, qui pourrait en dire beaucoup plus long, le dire autrement, qui ne se vante pas, mais auquel tout ce qu'il raconte ou l'équivalent est vraiment arrivé. Enfin, qui donne l'explication d'une chose, parce qu'il a vraiment cru la comprendre ainsi et qu'il ne pense pas avoir beaucoup de chances de trouver mieux par la suite, et non pas par goût de la théorie. Livre homogène, certes, et pourtant jusqu'à certains points seulement, car on a l'impression parfois que Proust incorpora sa pensée présente, traduite dans sa formulation d'homme mûr, et en les conférant par là une autorité et un poids qu'elle ne possédait peut-être pas à l'origine, des idées conçues, élaborées, récitées dans son fort intérieur, à toutes les époques de sa vie. L'œuvre adulte semble être le précipité final d'une longue méditation, plus ou moins volontaire, souvent interrompue, toute soumise aux humeurs d'un homme capable d'insister pendant des heures sur le même point, la même circonstance, le même portrait, se les dire, se les redire, se les recomposer, les écrire dans sa tête, n'ayant besoin d'aucun effort pour se concentrer sur ce sujet, parce qu'il était au contraire happé par le réel. Alors vous voyez, c'était bien le happé par le réel. Et la fin même qui explique cette espèce de rapport direct de familiarité à Proust, dans l'aspect négatif de sa critique de Sainte-Beuve, Proust a donc raison, car il y a une seule manière de parler d'un auteur, il y a une condition fondamentale qu'il faut remplir, il faut que ce qui lui importait vous importe. Parler d'un auteur, c'est dire, en prenant appui sur lui, ce qu'on pense soi-même de ce dont il a parlé. Et en effet, les chapitres, Proust et les snobs, Proust et la politique, Proust et l'amour, la vérité sur les autres, on sent bien que c'est un point de vue très original et un livre extraordinairement tonique qu'il avait ainsi écrit. Alors, il faut se dire que dans ces années 50-60, où à la fois je découvrais Proust pour ma part, il s'opérait une véritable révolution de l'historiographie de Proust. C'est le moment où Proust, je dirais, la vision globale de Proust se renverse et où on découvre un autre Proust. Antoine, compagnon, l'a remarquablement développé dans cet article des lieux de mémoire que je vous conseille de lire, qui est à la fin, je n'ose pas dire, puisque c'est aussi Proustomanie, tous les livres des lieux de mémoire, c'est le premier volume du troisième volet sur les Frances. C'est le deuxième volume, les traditions, c'est les conflits, les traditions et les symboles. Donc, c'est le deuxième volume et c'est la fin, je l'ai placé là exprès, des traditions, où je cherchais quelque chose qui puisse incarner l'image globale de la tradition littéraire. Et dans cet article, que j'ai évidemment relu pour cette séance, dont j'admire rétrospectivement, 20 ans après, plus encore que je ne l'ai fait sur le moment, la richesse extraordinaire, Antoine, et où vous faites la montée en puissance de Proust, vous le montrez avec beaucoup de finesse, que c'est dans ces années fin 50, début 60, 50-60, que se transforme l'image de Proust. En 1949, c'est la biographie de Mauroy à la recherche de Marcel Proust qui, pour la première fois, utilisant les archives de la famille proustienne, fait apparaître ce que très vite les publications par Bernard de Fallois du Contre Sainte-Beuve et de Jean Santeuil vont faire apparaître très vite après, à savoir qu'il n'y a pas deux périodes dans la vie de Proust, la vie mondaine et puis la mise à l'écriture, mais que dès le départ, il y a un écrivain obsessionnel et acharné sur lui-même et qu'il y a une sorte de terreau dans lequel la recherche naît, qu'elle ne naît pas tout d'un coup d'une révélation, mais d'un travail acharné sur des préparatifs. C'est aussi le moment de la Pléiade. C'est en 1954 que la Pléiade de Clarac paraît, et c'est le moment qui va lancer littéralement Proust dans un grand public. C'est aussi le moment où Proust, si j'ose dire, auteur pour une élite de droite, va passer à gauche, si j'ose dire, et va conquérir le public de gauche. Et c'est un moment capital. Je dirais qu'il est comparable qu'avec, après la mort du général de Gaulle, la récupération par la gauche du souvenir de Gaulle, qui a fait de lui le personnage total qu'il a été. Un phénomène semblable s'est produit avec Proust et que l'on doit assez largement à Gilles Deleuze, dans son livre « Proust et les signes » en 1964, presque au même moment que Revel, va faire de la recherche un livre sur le roman, un livre intellectuel, un livre totalement intellectuel, et il esquisse pour la première fois la différence entre le lecteur et Proust lui-même, ce que la thèse de Tadié, un peu plus tard, va développer très largement en montrant que le lecteur n'est pas Proust et que la différence entre les deux constitue déjà le caractère très construit et purement intellectuel de ce livre. Tout cela a contribué à transformer, je dirais, le conformisme de Proust en un avant-gardisme. C'est le moment où l'image de Proust va complètement basculer et où des articles de Georges Bataille, de Maurice Blanchot vont contribuer à en transformer l'image pour en faire un intellectuel et pas un écrivain mondain, et où les biographies et les ouvrages critiques à l'étranger pour les États-Unis de Germaine Bray d'une part et de Hans Robert Jos d'autre part, la thèse allemande, va contribuer encore à fortifier l'image très différente de Proust. Alors voilà, c'est ce moment, si vous voulez, de découverte très violente qui, je dirais, a probablement changé suffisamment mon existence pour que un certain Proust ait inconsciemment, je dirais, pas tellement inconsciemment, cheminé dans mon propre travail personnel et que, comme vous l'évoquiez, les lieux de mémoire sont une entreprise où se retrouvent dommages des concordances évidentes à Proust. Et d'ailleurs, là aussi, en le relisant pour ce séminaire, je me suis aperçu que le dernier paragraphe de la l'introduction générale des lieux de mémoire que j'ai faite donc en 1984 se termine sur Proust. Je n'y avais pas fait attention, mais ce dernier paragraphe est une allusion à Proust et où j'essaie d'évoquer le passage global dans notre civilisation de la mémoire, nationale dans mon cas, à l'histoire, telle que je vais essayer de la faire, à ce réveil du deuil de l'amour que Proust avait si bien décrit et où le drame est de ne plus aimer comme on a aimé, de ne plus être investi sur l'objet de son amour avec seulement plus les raisons du cœur et seulement les raisons de la tête, c'est-à-dire le passage de la mémoire à l'histoire. Alors, c'est rétrospectivement et à vrai dire avec votre aide que je me suis dit qu'il y avait là, en effet, des allusions, des échos, des hommages, des concordances que si j'essaie de les catégorier, je m'aperçois qu'elles sont en effet extraordinairement nombreuses, ne serait-ce que l'expression lieu de mémoire. C'est évident que c'est Proust. C'est lui l'inventeur du lieu de mémoire et qu'il suffit de songer à la petite Madeleine, aux pavés inégaux, au clocher de Martinville pour voir que l'œuvre de Marcel Proust est absolument pavée, faite de ces lieux de mémoire que l'on pourrait inventorier et que je vous avais demandé au moment où on a discuté de l'article que vous ne vous contentiez pas de faire l'inventaire banal de ce qui serait les lieux de mémoire de Proust, mais de constituer Proust en lieu de mémoire, ce qui était une entreprise différente. Alors c'est évident que le thème est le même, c'est celui de la mémoire, et que la définition que j'ai pu prendre de la mémoire, je l'ai empruntée à Proust elle-même, c'était la présence du passé dans le présent, mais qui chez lui est de nature bergsonienne, et qui pour moi, si j'ose dire, avec la modestie que je vous demande de mettre, ou que de croire que j'y mets, elle est plutôt liée au souvenir des mémoires d'Outre-Tombe et de Chateaubriand plutôt que de Bergson. Mais il est évident qu'à l'époque où je commençais à réfléchir à ces questions, cette préoccupation de la mémoire était quand même, si j'ose dire, du côté de Proust ou du côté de Chateaubriand, à une époque où l'historiographie était marquée surtout par l'école des annales et par une histoire de type économique et social liée à la Brousse et à Braudel, beaucoup plus qu'à une sorte d'histoire où la dimension littéraire, la dimension psychologique, la dimension affective, la dimension mémorielle, la dimension spirituelle et psychique était quand même fortement absente de l'approche de l'histoire. Et je dirais une deuxième raison qui, rétrospectivement, et encore une fois, en réfléchissant à votre sollicitation, m'a frappé, c'est notre procrastination. C'est-à-dire que Proust a quand même mis très longtemps à arriver à cette espèce de cristallisation soudaine de la recherche à travers le Contre Sainte-Beuve et à travers des épisodes psychologiques, personnels et biographiques. Je dirais, moi, c'est autre chose. J'ai beaucoup procrastiné. J'ai piétiné pendant des années autour de mon sujet que je ne trouvais pas. Et c'est l'évolution de la France qui m'a fait tout d'un coup prendre conscience de cette métamorphose brutale de l'histoire en mémoire qu'elle était en train de faire et de vivre. Je crois même que je peux lui donner une date. C'est ce que l'on a appelé l'année du patrimoine, c'est-à-dire 1980, année où Giscard d'Estaing, après l'année de la femme et l'année de l'enfant, avait déclaré possible de faire une année dite du patrimoine. Et c'est d'ailleurs dans cette année du patrimoine que, les dictionnaires le prouvent, le mot a changé sémantiquement pour de signification pour le public. Quand on regarde les dictionnaires, c'est entre 1980, début, fin 79 et début 81, que le premier sens donné à patrimoine change et que ce n'est plus le bien du père et de la mère hérité financièrement, le bas de laine, mais le bien collectif de l'humanité, le patrimoine culturel, matériel, historique. C'est donc bien la preuve que c'est à ce moment-là que quelque chose du sentiment du passé, du sentiment de l'histoire, est en train de basculer. Alors, il y a eu, à ce moment-là, et pour moi, c'est très simple, je connais très bien la genèse de cette idée, c'était Jacques Le Goff qui, presque 10 ans avant, m'avait demandé pour la grande collection à laquelle il s'intéressait des grandes civilisations et où il avait lui-même fait la civilisation du Moyen-Âge, il avait eu l'audace de me proposer de faire la civilisation contemporaine, ce qui était redoutable, évidemment. J'avais commencé à y réfléchir et j'étais arrivé à la conclusion que j'étais incapable parce qu'il aurait fallu une culture scientifique et une culture économique pour parler de la civilisation contemporaine que je n'avais pas. Mais en y réfléchissant, j'avais eu cette idée que nous étions en train de vivre un métabolisme du sentiment de l'histoire en un vécu de mémoire et que c'était cela qui caractérisait probablement la société contemporaine, dont la montée en puissance des médias était une évidence depuis quelques années, et que l'existence de ces médias, et en particulier l'irruption d'une télévision démocratique, changeait radicalement le vécu de l'histoire et le sentiment du passé par la même occasion. Eh bien, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à piétiner sur cette idée de la mémoire, mais qu'il a fallu quand même un élément déterminant pour que très tard dans ma vie, j'avais déjà près de 50 ans, je trouve au fond mon sujet. Et je ne m'arrêterai pas là parce que c'est évident que les lieux de mémoire qui devaient avoir au départ 4 volumes et qui en ont eu finalement 7 ont grossi de l'intérieur, comme, si j'ose dire, comme la recherche, que les lieux de mémoire n'ont pas été pour moi là. Réalisation d'un programme linéaire et déjà fixé à l'avance sur les 7 volumes de près de 1000 pages, mais que j'en avais pensé d'abord à 4 et que c'est de l'intérieur, dans un ouvrage en quelque sorte en abîme et en cercle, que le livre s'est développé, au point que, de la même manière que la recherche définit les conditions de sa propre naissance et fait sa propre histoire, puisque c'est un livre en abîme, de la même façon, j'ai pu terminer ce livre sur la mémoire par une réflexion sur la commémoration, c'est-à-dire en fait par la tyrannie que la mémoire elle-même exerçait sur notre époque et dont cette tentative d'historien était un effort pour dominer l'hégémonie et l'empire que la mémoire elle-même imprimait sur l'époque. Il y a là quelque chose d'assez semblable, si vous voulez, et j'y ajouterai quelque chose qui frappe aussi quand on y réfléchit, c'est que de la même façon que les lieux de ce qui caractérise les mémoires, c'est l'explosion d'une histoire en récit, d'une histoire chronologique, d'une histoire qui se développe en atomes de mémoire et en objets d'histoire qui sont indépendants les uns des autres, mais qui chacun symbolisent le tout. Et on a assez dit que la recherche du temps perdu était la rupture du lien chronologique total et que procédait elle aussi par instant, par moment, par une succession de moments indépendants les uns des autres, mais que le livre lui-même était fait de recouvrements de ces moments indépendants et qui ne se juxtaposaient pas les uns aux autres. Autrement dit, dans les deux cas, c'est une certaine forme d'irruption du discontinu dans le roman ou dans la littérature, comme ça a été dans l'histoire, ce qui a d'ailleurs à la fois déconcerté et fait l'originalité de cette entreprise. De cette entreprise qui, dans la recherche du temps perdu, est complètement habitée par une mémoire de type généalogique, c'est le type de la mémoire proustienne en permanence, et c'est évidemment la dimension historiographique qui, dans les lieux de mémoire, a constitué l'originalité de l'objet, c'est-à-dire de voir comment un objet, quel qu'il soit, que ce soit le dictionnaire Larousse, que ce soit une devise comme liberté, égalité, fraternité, que ce soit une commémoration comme celle du 14 juillet, étaient des unités toutes faites que nous vivions dans la familiarité de l'histoire, mais qui en fait avaient été véhiculées par le temps et que l'historien tout d'un coup faisait passer sous le microscope d'une manière précise et analytique, ce qui n'était pas fait en général. Et alors, évidemment, c'est la recherche est une forme d'encyclopédie de la mémoire littéraire et culturelle. Je n'ose pas dire que les lieux de mémoire ont voulu être, mais ils l'ont été, une encyclopédie de la mémoire historique, une sorte de méta-livre, si j'ose dire, qui transforme un livre mémoire en un livre miroir. Alors je crois que, pour terminer sur ce point, on a vécu à ces moments-là, à celui qu'a correspondu dans l'histoire de la discipline, les lieux de mémoire, une transformation parallèle dans le sentiment de la littérature. Au fond, depuis ces années-là, si on demandait aux Français quels sont les plus grands livres d'histoire, les plus grands livres de la littérature, on observerait une grande transformation. Il dirait assez volontiers, je pense, que les plus grands livres de la littérature française, c'est Montaigne, les essais, ce serait les Mémoires d'Outre-Tombe, ce serait les Proust. Et qu'on observe probablement un évanouissement de la littérature romanesque traditionnelle au profit d'une littérature du moi et au profit d'une sorte de projection, introspection et réflexion sur le moi, qui est quand même un grand basculement, je crois, de la sensibilité littéraire. Et je pense qu'on pourrait probablement retrouver dans la sensibilité historiographique, dans la sensibilité des historiens, un tournant analogue que nous continuons aujourd'hui à voir et qui serait fait de l'introduction de l'historien lui-même dans son travail d'histoire. C'est le grand moment où Duby, ici présent, introduit à ce point dans la réflexion historique une préoccupation personnelle, où il dit « je », alors que traditionnellement l'historien évitait de dire « je » sauf dans les dédicaces de sa thèse pour dire « je remercie ma femme d'avoir été si patiente ». Mais à part ça, le « je » était précisément banni. Or, c'est le moment où probablement les historiens vont commencer à se demander quel est leur propre rapport à l'œuvre qu'ils vont écrire. C'est ce qui m'avait poussé, d'ailleurs, à la même époque que les lieux de mémoire, à imaginer de demander à un certain nombre d'historiens connus de se prendre pour objet d'histoire et d'essayer de faire leur propre histoire comme ils avaient fait l'histoire de tant d'autres. Dans ces essais que j'ai appelés essais d'égo-histoire, et où Duby, précisément, Chaunu, Agulon et quelques autres avaient accepté de se plier à ce jeu. C'est le début, il n'y a pas de doute, d'une sorte de révolution de la conscience historique qui a abouti très vite à travers la critique de ce qu'on a appelé le tournant linguistique de l'histoire à donner à l'histoire une forme de dimension littéraire qui est encore aussi présente dans l'historiographie contemporaine. Alors voilà, je pense qu'il y a eu de très forts échos et que, disons, Proust a cheminé sourdement, secrètement et intensément dans ce travail d'historien auquel je me suis livré personnellement. Alors pour finir, si vous me le permettez rapidement, je voudrais m'interroger un peu sur le sens que va avoir cette année du centenaire de l'amour de Swann et me demander si ce Proust qui est aujourd'hui au zénith depuis 40 ans, la Proustomanie est en plein développement, parallèlement d'ailleurs à la Célinomanie, et on peut se demander quel va être au fond l'avenir et le destin de l'œuvre proustienne. Et je me demande si nous ne sommes pas symboliquement, en prenant cette date de 2013 comme date repère, au tout début d'une métamorphose de l'image proustienne un peu analogue à la métamorphose que Proust a subie dans les années précisément 50-60 que j'ai essayé de décrire. Pourquoi ? Eh bien, tout simple, c'est une hypothèse pure qu'en conclusion je voulais donner. Mais on peut se demander si les raisons mêmes qui ont contribué à la montée en puissance de l'image de Proust ne vont pas cesser d'être aussi efficaces qu'elles l'ont été pendant ces 40 ans. Si au fond on voulait essayer de caractériser les grandes raisons historiques pour lesquelles il y a eu cette montée en puissance, cette montée au pinacle de Proust, sans vouloir réduire la chose à ces quelques raisons, la première, et je crois que vous le soulignez ou vous l'indiquiez déjà dans votre article le début, c'est que cette montée, cette transformation dans les années 50-60 de l'image de Proust a été symétrique avec la montée en puissance de la société de consommation. Et très difficile de ne pas les mettre en rapport pour un historien. Elles coïncident et elles s'expliquent au fond. C'est le moment où toute une classe de loisirs, comme disait Veblen, a commencé à sortir des préoccupations économiques, matérielles ou financières, les plus étroites, pour s'intéresser aux phénomènes de culture, aux musées, aux expositions, à la peinture, aux voyages, au patrimoine, et où précisément le tourisme patrimonial a commencé à se développer aussi puissamment. Bref, il y aurait une réflexion, je crois, à mener de ce côté-là, de la coïncidence entre l'avènement de la société de consommation, bizarrement, et la distinction proustienne, si j'ose dire, pour employer un terme bourdivin à la Bourdieu, de la distinction. C'est certainement une des raisons et une piste. Or, avec la crise, il est fort possible que cette société de consommation ait pu ses premiers effets, et on sent que quelque chose pourrait s'esquisser de ce côté-là. La deuxième raison est absolument évidente, c'est la montée en puissance de la psychanalyse, qui a tout à fait coïncidé, et de la psychanalyse de type lacanien en France, avec la montée en puissance de Proust. Et je suis d'ailleurs étonné que vous n'ayez pas demandé à un psychanalyste son rapport à Proust. Un mathématicien, un archéologue, oui, mais un psychanalyste, c'est une évidence que la démocratisation de la psychanalyse, si j'ose dire, l'élargissement du rapport à la psychanalyse et avec Proust est complètement à mettre en rapport. Et là encore, cette démocratisation a presque abouti à une sorte de routinisation. La psychanalyse n'a plus son côté effervescent et anticonformiste qu'elle avait dans ces années 60-70, et d'une certaine façon, cette raison de la proustomanie peut peut-être s'émousser, disons. Il y en aurait une évidemment évidente, c'est l'homosexualité. Proust, ou la montée en puissance de l'image proustienne, serait incompréhensible sans la montée en puissance dans la société de l'homosexualité. Je dirais même plus, c'est quand même son homosexualité qui a transformé l'image d'un Proust mondain qui serait un homosexuel parce que mondain ou un mondain parce qu'homosexuel, enfin les deux, en un critique de ce monde du snobisme et un homme de l'écart, de la distance, et qui précisément a cette dimension de critique intellectuelle par rapport au monde de la mondanité. Et c'est son homosexualité qui, là encore, a contribué à faire de son conformisme mondain un avant-gardisme critique, à beaucoup d'égards. Or, je dirais la même chose du fait qu'il était juif. Là encore, on ne peut pas ne pas mettre en rapport cette Ursprung, si j'ose dire, pour employer un mot heideggerien ou allemand, de Proust, avec la métamorphose de l'identité juive et la montée en puissance de la Shoah. Et si étrange que cela puisse être, il y a le critique politique social, le critique de la guerre de 14, il est très difficile de ne pas souligner la découverte de la profondeur de l'identité juive, même ambiguë, chez Proust, avec la montée en puissance de l'affirmation de l'identité juive pendant ces années-là, qui a très largement, encore une fois, contribué à faire de Proust ce dissident, cet homme de l'écart, cet homme des marges, cet homme de la critique sociale que, dès les années 60, Revel avait tenté de souligner. Enfin, je n'ose pas le dire, mais je crois qu'il y a probablement eu, dans ces années 1960-70, une forme d'interrogation sur le temps et une montée aussi du thème de la mémoire dont on a assez parlé, qui va se vulgariser, qui va se généraliser, qui va se démocratiser aujourd'hui, au point que l'ensemble, le faisceau de ces raisons que je n'ai le temps que d'indiquer, laisserait penser que l'univers de Proust qui a porté cette image jusqu'à l'industrialisation, ou à peu près, et qui va connaître dans ce centenaire une apothéose absolue, le nombre de publications prévues et annoncées est presque invraisemblable. Jusqu'au dictionnaire amoureux de Proust, qui va sortir, fait par Antoven père et fils, jusqu'à cette publication dont vous avez montré les débuts, des manuscrits proustiens. Bref, on est entré dans le culte, il n'y a pas d'autre mot, l'absolu au sens du culte, qui n'a presque plus rapport avec son objet, mais tout avec ses formes. Alors, tout cela, je le dis à titre d'hypothèse pure, mais on peut se demander si cette espèce de sommet, de compendium, d'encyclopédie de la littérature que Proust a représenté depuis une quarantaine d'années ne peut pas être en voie d'amenuisement. Et ce qui peut-être me pousserait aussi dans cette direction, c'est deux remarques que m'ont inspiré les tirages que j'ai fait sortir pour vous de Proust, chez Gallimard au moins, puisqu'il est tombé dans le domaine public et que je ne connais pas les autres. Mais il ressort de ces chiffres que j'ai fait faire sur 4 ans, depuis 2007, deux remarques évidentes. La première, c'est quand même, en effet, qu'il y a eu un palier et que peut-être ce palier risquerait d'être dépassé maintenant, ou du moins que les chiffres sont maintenant masqués par la scolarisation. C'est-à-dire que Proust étant devenu un auteur universitaire scolaire obligatoire, les chiffres d'amour deviennent des chiffres de patrimoine, si j'ose dire. C'est ce que je veux dire. En tous les cas, c'est assez intéressant. Ils sont à 70 000. Toute collection confondue, puisqu'il y a la Blanche, il y a le Folio, il y a la Pléiade, il y a le Quarto... Donc, il y a des éditions de type différents de Proust, mais le tout dans le tout, de 2007 à cette année, ils sont à 70 000 par an, rien que chez Gallimard. C'est énorme. Si on considère que toutes les autres éditions existent maintenant depuis qu'il est tombé dans le domaine public, on voit qu'il y a un étiage, je dirais, qui ne peut plus que l'arracher à l'originalité. Il n'y a plus d'originalité à lire Proust, c'est même obligatoire. Puis la deuxième remarque que ces chiffres indiquent et supposent, c'est qu'il y a une concentration sur un titre, qui est l'amour de Swann. Un amour de Swann maintenant. Oui, oui, 45 000, je veux dire, c'est trois fois plus que tout le reste. Donc je pense qu'en tous les cas, et on va le voir pour du côté de chez Swann si vous voulez, il y aura, et c'est un phénomène qui touche probablement tous les classiques, et qui signalerait donc l'entrée de Proust définitivement dans le domaine des classiques, car tous les classiques voient leur œuvre presque se concentrer sur un titre. C'est Swann. Et le reste ne sera, est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins lu. Alors, je pense que tous ces faisceaux indicateurs amènent à une conclusion qui est absolument évidente. C'est que pour lire Proust, il faut du temps, il faut cette société de la lecture lente que nous sommes en train de quitter. Et c'est ça qui tuera le plus l'ensemble de la lecture de la recherche pour le concentrer sur un seul livre, c'est que le temps des vacances où je pouvais lire pendant 15 jours un volume de Proust appartient à un univers que nous sommes en train et que nous avons déjà quitté. Voilà.
Merci.